Vous êtes toujours sur Déclic. À l'occasion du 36e Festival Musique Action au CCAM de Vendeuvre-les-Nancy, notre correspondant Stéphane s'entretient avec le musicologue et conférencier Guillaume Kosmicki.
Guillaume Kosmicki, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes musicologue, conférencier, spécialiste de la musique contemporaine, vous me direz si je me trompe. Vous avez notamment animé la journée consacrée à Eliane Radig au CCAM de Vendeuvre en janvier 2018 et vous collaborez aussi à Musique Action auprès d'Olivier Perry. Le CCAM a proposé du 11 au 13 septembre une version concentrée de Musique Action qui aurait dû avoir lieu en mai dernier. J'aurais voulu vous demander quelle est la place de ce festival dans le paysage musical français, voire au-delà, aujourd'hui, après 36 ans.
Alors j'avoue que j'ai pas connu les 36 années et que j'ai même peu connu l'évolution du festival, étant donné qu'il n'y a que très peu de temps finalement que je me rends ici à Nancy. Déjà j'habite un peu loin, j'habite en Bretagne, et puis c'est venu d'un... On peut dire presque un concours de circonstances, peut-être pas tant que ça. C'est vrai que Olivier, quand il a présenté sa candidature, Olivier Perry, le directeur du centre, m'avait contacté. Il avait lu mes livres et il aimait bien le positionnement que j'avais dans ces livres, avec une certaine ouverture, on va dire, sur la musique, une musique contemporaine qui soit beaucoup plus en regard des autres familles musicales qui se trouvent autour d'elle, quelque chose de moins ciblé, concentré dans des petits ghettos, je dirais. Il avait beaucoup aimé ce livre et il m'avait proposé de dans son dossier de candidat de citer mon nom et puis d'imaginer des projets éventuels avec moi si jamais d'aventure il était pris comme directeur. Et il a été pris comme directeur, donc je me suis retrouvé de fait intégré à l'équipe, à ma grande joie, mais aussi à ma grande surprise, parce que finalement, j'avais même pas totalement...
Avant d'arriver, vous aviez déjà entendu parler de Musique Action ?
Bien sûr, mais bon, voilà, j'étais pas venu, j'avais surveillé un petit peu, mais j'avais vu que c'était... Sans y être venu, je peux pas non plus totalement être certain de ce que je raconte, mais j'avais vu que c'était quand même très ciblé musique improvisée, expérimentale. Musique improvisée, expérimentale, c'était le sillon que s'était tracé le festival. Or, la tendance actuelle, et on le voit sur trois grands festivals de l'Est, quand même, il faut dire que vous avez des belles choses à l'Est. Je dis vous avez, parce que moi je viens de Bretagne, là en l'occurrence, c'est Musica, qui a aussi bien changé en même temps, quasiment, hein, avec le nouveau directeur Stéphane Roth, qui prend un nouveau virage, une nouvelle direction, et Météo. Et c'est vrai qu'un était ciblé jazz, l'autre musique contemporaine et l'autre musique expérimentale, donc chacun avait une zone bien définie. Ouais. Or aujourd'hui, on peut plus marcher comme ça. On peut plus marcher comme ça parce que c'est vrai que cette sectorialisation, cette ghettoisation des musiques n'est même plus une réalité chez les musiciens les plus aventureux. Mmh. On le voit très clairement en fait, hein, chaque musicien a des antennes, des oreilles un peu partout.
C'est moins cloisonné qu'avant.
Oui, alors en tout cas, chez les créateurs, chez les artistes, oui. D'accord. Peut-être moins au niveau des donneurs de subventions, de l'État, qui sont encore sur des vieilles catégories, et ça, il faudrait que ça change. Mais il est très clair qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec la révolution Internet, hein, depuis 20 ans, on peut tout écouter tout le temps. Donc... À une époque où il fallait vraiment chercher des disques rares, moi je me souviens quand j'ai fait mes études de musicologie, c'était dans les années 90, on nous citait des œuvres de Berlioz, de Nono, mais on n'avait jamais accès à un disque pour les écouter, c'était incroyable. Si on voulait écouter telle œuvre de 1956, etc., dont tout le monde parlait, il fallait chercher, se lever tôt, trouver des disques. Or aujourd'hui, on peut tout écouter, tout le temps, donc évidemment que la création musicale chez les plus jeunes, elle s'est ouverte complètement. Évidemment que...
C'est la révolution Internet un peu ?
Alors, ça y a fait beaucoup. Et puis je dirais qu'il y a aussi un grand changement social. Il y a un grand changement de société qui a été amorcé, je dirais, dans les années 70. Il y a quand même des remises en question assez considérables de ce que peut être la modernité, de ce que peut être le progrès. Ça, c'est certain que notre vision d'un futur n'est plus du tout aussi optimiste qu'elle a pu être pendant les Lumières.
Ça risque pas de s'arranger.
Malheureusement. Il faut en tirer son profit, hein, parce que ça permet aussi des créations intéressantes, ça permet des réflexions intéressantes aussi sur l'humanité, sur le monde. Ça fait avancer la pensée, la philosophie aussi. s'est passé, c'est que évidemment, hein, cette vision des Lumières du XVIIIe siècle, elle a été mise à mal par tout ce qui s'est pu se passer au XXe. Hein, c'est quand même le siècle des massacres de masse, le siècle des grandes idéologies assez destructrices quand même, mais bon, avec de l'espoir, de l'utopie, mais quand même avec aussi beaucoup de laisser pour compte. Et ces grandes utopies, en fait, depuis les années 70, elles ont plus cours. On a beaucoup D'accord. de mal à projeter dans l'avenir, on a beaucoup de mal à imaginer un futur radieux, on a beaucoup de mal à se dire qu'on est dans une ligne continue de croissance exponentielle. Dans tous les domaines, tout ça est remis en question, que ce soit l'économie, l'écologie évidemment, la société, la politique. On ne sait pas si vraiment on peut aller vers un progrès, on se pose plein de questions.
Mais alors dans la musique, on en est où,
la musique, ça c'est intéressant parce que justement, j'y arrivais. On ne peut pas du tout voir les arts, et en l'occurrence la musique, on ne peut pas du tout les interpréter de la même manière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'avenir, bon, il n'est pas bouché, en tout cas il est incertain, on n'a plus cet optimisme de projection vers le futur, on n'a plus forcément cette idée d'une prospection nécessaire. L'art était prospectif parce qu'il devait partir vers la quête de nouveaux mondes, et donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale par exemple, c'était très clair, avec des Boulez, des Stockhausen, des gens comme ça qui voulaient tout briser, tout réinventer. Ça c'est plus possible aujourd'hui, parce que réinventer ça veut dire qu'on croit à un futur probablement meilleur. Or là il faut réinventer, mais avec des rustines, avec d'autres choses, etc. Et ça oblige, en fait, les musiciens à regarder ce qui se passe à côté. Ce qui se passe à côté, ce qui se passe dans le passé aussi. À aller faire acte d'archéologie, creuser dans le passé, voir un peu tout ce qui a pu se faire, pour essayer peut-être de trouver des solutions. Hein. C'est presque... ça peut sembler un peu facile comme...
c'est une sorte d'assimilation, digestion qui va aboutir à quelque chose quand même de nouveau.
En tout cas, ça rassure. Ça rassure, parce que ça permet de se poser sur des bases, je dirais, qui ont fait leurs preuves, qui ont été saines, qui ont été effectives à certains moments. Mais ça permet aussi de regarder ce qui se passe à côté, d'essayer de comprendre, en fait, de ne pas être dans une idéologie ou un idéal, occidental, par exemple. Aller voir aussi ce qui se passe dans les musiques d'autres contrées, aller voir, pour des musiques acoustiques, ce qui se passe aussi avec l'électricité, avec les nouvelles technologies, tout est possible. C'est pour ça qu'on trouve des artistes qui vont faire des projets différents à chaque concert ou à chaque disque. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de trouver des artistes qui passent du monde du rock au monde du jazz ou au monde de la musique de création écrite, sans se poser vraiment de questions, comme on a pu se les poser à certaines époques. C'est le contexte qui fait, moi j'en suis persuadé, qui fait ça, beaucoup.
Comment on retrouve ça dans Musique Action ?
Alors, Musique Action, ça a été une discussion qu'on a eue avec Olivier, mais avec Anne-Gaëlle aussi, qu'il faut absolument citer.
Qui est directrice adjointe. Olivier, directeur, et Anne-Gaëlle Sanson, directrice adjointe.
Absolument, et qui c'est quand même un binôme, ils fonctionnent vraiment ensemble. Olivier a dit, arrêtons le sectarisme, arrêtons les petites chapelles. Il faut absolument qu'on ait un festival ouvert à beaucoup d'esthétiques, à beaucoup de propositions. Moi, j'étais tout à fait d'accord avec ça. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui se manifeste par, des soirées peut-être aussi très, très variées aussi au niveau des esthétiques qu'on y rencontre, avec des choses qui vont sonner peut-être un petit peu plus rock. Ce soir, on a Caravaggio, très clairement identifié post-rock, et ça, c'est étonnant, quand on parle de Caravaggio, c'est un groupe qui est formé lui-même, quand on regarde le groupe, il est formé de 4 musiciens. Il y en a deux, Benjamin de la Fuente et Samuel Cicchicelli, qui sont issus du Conservatoire National Supérieur de Paris, qui ont fait un cycle de composition, qui ont travaillé avec Gérard Griset, qui est quand même un grand compositeur de musique spectrale. Donc on se dit, c'est des compositeurs de l'écrit. Or, en même temps que ça, ils ont fait des classes d'improvisation, ils sont devenus des improvisateurs hors pair, hein, vraiment, enfin, ils ont beaucoup, beaucoup travaillé sur ce domaine-là. Ils ont créé un collectif qui s'appelle la Sfota dans les années 2000 d'improvisation. Ils sont eux-mêmes instrumentistes, ce qui n'est pas fréquent dans le cadre de la musique contemporaine, ou enfin, d'avant, je dirais, où on était beaucoup à sa table en train d'écrire des partitions, de travailler. Eux jouent, donc Samuel Zighicelli du clavier, Benjamin de la Fuente, violon et guitare, comme ce soir dans Caravaggio. Et il joue avec Eric Echampart à la batterie et Bruno Chevillon, qui sont deux musiciens clairement identifiés normalement jazz. Mmh. Et ils jouent ensemble quoi, du rock, enfin une sorte de rock un peu psychédélique, un peu une sorte d'héritage d'une grande histoire du rock. Ils appellent ça un post-rock, on pourrait appeler ça un art rock. Et c'est typique, voilà par exemple un ensemble typique de ce qu'on peut trouver dans le musique action de vision actuelle, je dirais. Hein. Non pas, encore une fois, je dis non pas qu'il n'y a pas pu avoir ça dans les années précédentes, mais peut-être que là, il y a peut-être une conscience de le faire vraiment comme un projet.
Le concert inaugural, trois concerts en un.
Ouais.
On dit des sets normalement en jazz, mais on dit pas ça hein, en musique contemporaine. Mais
je crois qu'on peut dire comme tu veux. Hein.
Alors voilà, Pierre Bastien, Valentina Magaliti. Alors ce mécano un peu, ou je sais pas comment on peut dire, c'est assez étrange, ce mécano ou boîte à son comme ça. C'est...
Ouais, il y a un aspect très bricolage. Ça c'est do it yourself,
visuel.
Un petit peu do it yourself. Oui. Ça aussi c'est très actuel. On est dans une musique. Alors je dirais que ça vient même du punk de la fin des années 70. Le do it yourself, c'est bricole, fais-le par toi-même, donne-toi les moyens de faire des trucs. Et effectivement, avec ces petites machines qui ont l'air faites avec de francs sous, des petits bouts de moteur, des petits machins. En
fait, comme un mécano dans le toit.
Exactement, avec les ombres chinoises qui projettent sur l'écran pour bien nous montrer justement le côté cheap de la chose, et pourtant des sonorités assez complètement incroyables qui sortent de ça, avec des effets bien sûr qui amplifient les mécanismes, des mécanismes un peu des choses bancales, des choses qui vont
associées à la batterie et au violon,
complètement
deux instruments tout à fait classiques.
Alors classiques, mais aussi pas souvent associés. Enfin bon, c'est vrai que la batterie, c'est... alors là je trouvais qu'elle envoyait hein, cette batterie, elle était presque un peu rock hein, des fois, c'était très très rentre dedans. Et le violon, bon bah, qu'on associe souvent, alors soit à un jazz un peu ancien Grappelli, soit à la musique classique, enfin, c'est l'image qu'on en a. C'est vrai que c'est une belle association là, assez hétéroclite, qui fonctionnait plutôt pas mal, j'ai trouvé. Et bon, effectivement, c'est assez plaisant, enfin, ce côté vraiment do it yourself, ce côté bricolage, récupération, ça c'est un truc aussi très actuel.
Très construit quand même, c'est très pensé tout ça.
Ah oui, bien sûr, ça n'empêche pas.
Oui, hein.
Ça n'empêche pas. Mais ce côté friche, récupération de zones laissées à l'abandon, moi j'ai beaucoup connu ça à une époque quand j'étais étudiant en musicologie, je travaillais sur les raves, sur la techno, sur toutes ces friches, toutes ces musiques aussi recyclées à coups de samples, à coups d'emprunts à des disques, etc. Donc ça c'est un grand classique aussi de la musique d'aujourd'hui. Le fait de regarder à l'horizontale et de regarder à la verticale dans le passé et dans ce qui se passe à côté, il y a aussi ce côté recyclage, croisement, bon, c'est vraiment l'idée de ces musiques d'aujourd'hui. Erwan Keravec
qui vient de chez vous,
sonneur breton, absolument.
La cornemuse, c'est incroyable.
Ouais.
On s'attend pas à trouver de la cornemuse dans un concert de musique contemporaine.
Eh bien, oui, Erwan, c'est vrai qu'il a été un des grands artisans de la de cette cornemuse qui devient un objet pour les compositeurs de musique dite savante, osons le mot. Il a commandé beaucoup d'œuvres à des compositeurs qui ont écrit des choses, qui ont étudié son instrument. Alors il vient de la cornemuse traditionnelle, hein, Erwan, il a aussi beaucoup joué comme sonneur dans ce domaine de la musique bretonne.
Ce qu'on appelle la musique traditionnelle.
Tout à fait, tout à fait. Et il a toujours été très intéressé par la création, par la musique de création, et il a suscité beaucoup de gens. Là, ce soir, c'était une œuvre d'Eliane Radig, hein, et puis il y avait aussi Heiner Goebbels qui lui a écrit une œuvre. La seule œuvre qui n'était pas écrite pour lui, c'est celle de Philip Glass. C'était une œuvre pour piano des années 60 que lui a adaptée.
C'est une adaptation.
Absolument.
C'est pas une transcription, c'est une adaptation. Enfin, peu importe.
Ouais, voilà, c'est ce qu'il a dit, effectivement.
Alors, dans la pièce de Heiner Goebbels, quelque chose d'intéressant, il y a deux références à la passion. Enfin, il y a deux références à la passion selon Saint Jean.
Ouais,
moi, je les ai pas entendues, j'ai pas dû faire attention, mais.
Ouais. Elles sont discrètes.
Elles sont discrètes. Ouais.
C'est Saint-Jean ou Saint-Mathieu ? J'ai un petit doute.
Saint-Jean.
Saint-Jean, d'accord. Ouais, d'accord.
C'est ce qu'il a dit. Et alors, Eliane Radig, vous connaissez bien.
Ouais.
Vous avez animé une journée.
Alors, je n'ai pas animé la journée, vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'ai animé une petite conférence d'introduction à la journée, parce que la journée, je l'ai faite, je le reconnais.
Vous l'avez conçu.
Avec plaisir.
C'est ça que je
veux dire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup discuté, effectivement, avec Olivier de ce programme. C'est Olivier qui a fait quand même venir les artistes, c'est vrai qu'il y avait. C'était une belle journée avec beaucoup de choses, avec un film, avec un solo de Louis-Michel Marion, et puis voilà toutes ces configurations multiples avec Hélène Bréchamp, Carole Robinson et Louis-Michel Marion. Très intéressante. Et puis, cette conférence qui essayait de situer un petit peu, au-delà du film qui était beaucoup plus sur quelque chose de sensible, un peu vraiment la vie d'Eliane Radig, moi, je situais son importance esthétique, on va dire, dans l'histoire.
Je voudrais qu'on revienne à la pièce là, qu'elle a composée exprès donc pour Erwan Keravec.
Alors, c'est une pièce que je découvrais avec beaucoup d'intérêt, parce que j'attendais de l'écouter. Jusqu'à maintenant, j'ai entendu beaucoup d'œuvres acoustiques écrites par Eliane Radig. C'est sa nouvelle direction de composition depuis les années 2000. Hein, c'est quelque chose qu'elle ne faisait pas avant, parce qu'elle écrivait beaucoup pour le synthétiseur. Et on la suscite de plus en plus, plein de musiciens. C'est devenu presque une star.
C'est la papesse de la musique
électronique, normalement. Et là, c'est des musiciens acoustiques.
On connaît Pierre-Henri, on connaît Pierre Schaeffer. Mais moi, je ne connaissais pas Eliane Radig avant de venir à cette journée il y a 2 ans. Et entre-temps, j'ai retrouvé son nom dans le cadre d'une exposition à la Philharmonie de Paris. Et en fait, c'est une énorme référence. Alors, cette dame, elle est âgée aujourd'hui, mais elle compose toujours. Et c'est une référence énorme dans ce domaine-là.
Alors absolument, et c'est elle a malheureusement traversé ce que beaucoup de femmes ont traversé dans l'histoire des arts et puis dans l'histoire en général. Elle s'est fait mettre de côté, bien proprement, on va dire, alors qu'elle avait été très importante, effectivement, une des premières à suivre les cours de Schaeffer à la fin des années 50. Et puis surtout quelqu'un, après avoir eu ses enfants, qui avait un peu décroché de ce monde-là, mais qui a aidé, mais énormément, plus qu'aidé, qui a assisté Pierre-Henri sur des projets mais gigantesques, hein, sur l'Apocalypse de Jean quand même, hein, c'est une de ses œuvres les plus importantes, et il se trouve que elle a fait plus que l'assister, elle a fait tous les sons, elle a fait vraiment un boulot incroyable. Et puis elle composait avec des Larsen, sauf qu'elle composait vraiment avec une personnalité qui était vraiment bien singulière, et que la manière dont elle voyait l'outil électroacoustique à l'époque, basé sur des trames, sur des longueurs, ne correspondait pas du tout avec la vision de Schaeffer ni de Pierre-Henri. Et cette vision-là, qui était en fait beaucoup plus de faire des événements sonores, de faire des objets sonores bien identifiés, elle faisait des trames, des longues durées, avec des Larsen qu'elle travaillait vraiment avec une grande, grande finesse, suivant le placement du micro. Et puis elle a même contribué, ça c'est plus anecdotique, mais quand même, à la réconciliation entre 10 ans après, hein, entre Pierre Schaeffer et Pierre-Henri, qui s'étaient engueulés en 58, hein, au moment de la création du GRM. Après 10 ans de collaboration, Pierre-Henri avait claqué la porte et était parti. Elle les a remis ensemble. Et pourtant, effectivement, on parle pas d'elle. Elle est partie aux États-Unis. C'est là qu'elle a réussi un peu plus à marcher. Elle a composé beaucoup sur un synthétiseur qu'elle a découvert là-bas, le Harp 2500. Et elle n'était pas vraiment écoutée en France. Hein, elle a quelques concerts, mais c'est surtout aux États-Unis qu'elle a été redécouverte. Elle a été redécouverte au début des années 2000, notamment grâce à Kaspar Teplitz, qui adorait sa musique, qui la connaissait par le disque. Et depuis Kaspar Teplitz, depuis cette redécouverte, je dis, elle devient, alors c'est relatif bien sûr, hein, parce qu'on est quand même dans des musiques de création, mais elle devient une star. Mmh. Elle est très courtisée, elle est très demandée par beaucoup de musiciens. Et Erwan lui a commandé une œuvre que j'ai découvert comme beaucoup hier soir. Mmh. Elle a été créée il y a un an, mais bon, j'ai pas eu l'occasion de l'écouter ici ou là. Mmh. Et je me demandais vraiment comment ça pourrait fonctionner, parce que la cornemuse est un instrument extrêmement puissant, extrêmement...
ça sonne fort.
Ah, ça sonne très fort, et elle travaille beaucoup plus dans des grains extrêmement fins, et le pianissimo ne la dérange pas. Souvent dans la clarinette, la contrebasse, la harpe, enfin quel que soit l'instrument pour lequel elle écrit, c'est souvent dans des nuances extrêmement pianissimo. Je me demandais ce que ça pourrait faire. Alors je peux donner que mon avis personnel, je peux me permettre.
Ah, bien sûr.
sur les premières... secondes, voire minutes, la cornemuse, toujours, mais moi c'est immanquable, ça me fait penser à la cornemuse traditionnelle. Mm-hmm. Donc il y a un moment d'adaptation, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je me dise, tiens, oui, c'est pas de la musique traditionnelle bretonne. Et assez vite, et là vraiment ça a fonctionné, assez vite on a eu des granulations, des harmoniques.
On rentre dans un autre univers.
Exactement, et on oublie la cornemuse en fait, et on est complètement dans l'univers de Radig, vraiment qui a été vraiment bien mené par Erwan. J'ai trouvé cette œuvre tout à fait réussie, vraiment comme beaucoup d'œuvres que j'ai entendues de Radig sur d'autres instruments.
Après changement d'univers, Hervé Birolini, avec tout un dispositif, des haut-parleurs plasma, des bobines Tesla, des bobines de Ruhmkorff, je ne sais pas ce que c'est, mais qu'est-ce que ça a donné ?
Alors, étonnamment, moi qui ai beaucoup travaillé, je l'ai dit, sur la techno, les raves dans les années 90, j'ai beaucoup suivi les raves hardcore notamment, Manuel Malin, des artistes comme ça, qui faisaient danser des dance floors gigantesques avec vraiment des BPM très rapides, des gros kicks distordus, des battements de grosses caisses très très puissants. Là, il manquait pas beaucoup pour qu'on soit dans le hardcore. Et Hervé le sait, on en a parlé un petit peu après, il manquait juste le kick. Et de temps en temps, il s'amusait à mettre des kicks, mais il les décalait complètement. Il ne les mettait pas du tout sur le principe de la techno hardcore, mais on était vraiment dans des montées, des montées en puissance, des espèces de spirales de son saisissantes. En plus, bon, là, il n'y avait pas ça dans la techno parce qu'on était dans des situations frontales, mais là, c'était en plus en quadrille. Enfin, ça tournait dans la salle, donc c'était encore plus saisissant. Je me suis bien placé au centre pour bien sentir les choses. Et l'installation... était plutôt minimaliste finalement, c'est-à-dire que j'ai vu Hervé ici même au CCM dans Musique Action,
avec des dispositifs assez impressionnants
sur d'autres dispositifs effectivement peut-être plus mobile, mouvant, avec des changements, c'est-à-dire qu'à un moment on se disait ça changeait, la configuration changeait, or là c'était frontal, c'est-à-dire on avait vraiment les néons placés comme ça, donc très minimaliste. Et lui m'a dit, et c'est assez assez bien pensé, que justement, il s'amusait à pas mettre cette idée du kick trop facile, cette idée de la montée en puissance jusqu'à une sorte de climax intense. Il obtenait ce climax via les néons, justement, via le jeu de lumière. Et c'est vrai qu'il y avait, de ça. Et quoi, si on fermait les yeux, parce que j'ai vu des gens fermer les yeux, parce que c'était assez difficile, ça peut être jugé comme assez agressif, ces néons qui clignotent, ces
étincelles,
tout ça. Ah oui, bien sûr. Ces gens qui fermaient les yeux perdaient une dimension quand même, ça c'est sûr. Qui allait vraiment avec de pair avec ses montées en tension, etc.
Alors on peut pas parler de tous les concerts, mais on a eu un jeune violoncelliste, Stéphane Clore, qui s'est produit à la médiathèque. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Moi j'ai bien apprécié.
Donc là c'est aussi un mélange d'un instrument classique, acoustique, avec un dispositif électrique.
Ouais, il y avait deux temps. Il y avait effectivement au départ des boucles un peu bruitistes avec toutes sortes de petites harmoniques, de petites percussions sur les cordes, de petites voilà, des petites comme des parasites qui finalement donnaient une sorte de boucle qui commençait à faire avancer, mais avec beaucoup d'accidents sur le départ. Et après beaucoup plus des trames. De, alors on va pas dire drone musique, mais c'est pas loin de là. C'est-à-dire cette idée de bourdonnement, le drone, la drone musique, c'est des musiques qui se basent sur des longues tenues. Alors il y avait un peu cet aspect-là, même si c'est pas complètement ça. Et jusqu'à, alors assez soft sur le départ, jusqu'à des drones assez distordus sur la fin, des choses un peu agressives où ils jouaient sur des harmoniques un peu acides. Voilà, donc une belle exploration du son, une belle exploration de son instrument aussi. Ouais, j'ai trouvé un très beau solo. Ouais.
On ne peut pas commenter tous les concerts parce qu'ils n'ont pas encore tous eu lieu au moment où on échange. Donc on espère que ça se poursuivra de la même manière. Eh bien, Guillaume, je vous remercie beaucoup d'avoir échangé avec moi.
Interview de Guillaume Kosmiki sur Radio Déclic, à réécouter sur le www.radiodéclic.fr.